BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot, votre émission RH. Tous les week-ends, on est ensemble pendant une demi-heure avec un programme bien chargé. Adieu les managers et les réunions, le néo-assureur Alan remet tout à plat dans son organisation du travail. Est-ce que ça marche? On posera la question à la DRH qui nous rejoint dans un instant pour en parler. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission. Vous nous écrivez pour nous poser vos questions et on y répond avec notre avocat et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan. Aujourd'hui, l'avocate Déborah David nous dit si les partenaires sociaux doivent connaître tous les signalements des salariés. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Jeanne, si votre manager avait, disons, 25 ans, comment est-ce que vous réagiriez?
C'est un peu plus jeune que moi, oui. Je ne sais pas trop comment je le prendrais.
Oui, et bien justement, comment vous réagiriez, vous qui nous regardez, qui vous nous écoutez? C'est le sujet auquel on va s'intéresser dans le meeting, être manager à 25 ans. On est aussi allé vous poser la question dans la rue, on écoutera les réponses. Et puis en fin d'émission, Jeanne, on va vous retrouver dans le labo d'Happy Boulot.
Oui, je vais vous donner les meilleures idées qui vont vous donner envie de retourner au bureau.
Ouais, c'est pas gagné avec le télétravail et tout ça. J'espère que c'est des bonnes idées.
Très très bonnes.
Vous allez nous présenter tout ça. Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Bonjour Juliette Rimbaud.
Bonjour Erwan.
Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes la DRH de l'assurance santé Alan, que je vais expliquer ce que c'est en quelques chiffres. Alors déjà, en termes de collaborateurs, c'est 570 personnes aujourd'hui en France, en Belgique, en Espagne.
Exactement.
25 000 entreprises clientes déjà, 150 recrutements qui sont prévus cette année, 2024, mais surtout une organisation du travail, disons, atypique et non conventionnelle. Adieu les managers et les réunions chez Alan, en gros, c'est comme ça qu'on pourrait peut-être résumer. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, hein.
Alors, effectivement, on a une culture d'entreprise qui est singulière parce qu'elle fait écho à un produit d'entreprise qui est singulier. Quand l'entreprise a été créée il y a 8 ans de ça, maintenant, pour devenir ce qu'on est devenu aujourd'hui, le partenaire santé tout en un, qui prévient et qui rend la santé accessible à ses membres, la première brique qu'on a posée, c'est l'assurance santé. Mmh. Et les cofondateurs, à l'époque, ont pensé la culture d'entreprise en écho à cela, en parallèle à cela, les deux projets se sont nourris. Et par exemple, la transparence, qui est une des valeurs fondamentales de notre produit, c'est toujours un cauchemar de s'y retrouver dans ces garanties d'assurance santé. On ne sait jamais combien on va être remboursé. Mm-hmm. Chez Alan, c'est transparent. De la même manière, la transparence, on l'a inclus dans la culture d'entreprise et elle fait partie intégrante de notre ADN.
Vous, en tant que DRH, déjà, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de travailler dans cette entreprise? Quand on travaille dans les ressources humaines, on veut aussi, j'imagine, entrer dans un groupe, une boîte, une start-up même parfois, qui ont des valeurs qui nous ressemblent ou en tout cas qui expérimentent des choses qui peuvent être intéressantes.
Moi, j'ai été complètement séduite par la culture d'entreprise quand je l'ai découverte. Mmh. Effectivement, cette transparence, ça rend les gens sachants. Ça rend les gens maîtres de leurs actions pour résoudre leurs problèmes. Et puis, il y a d'autres aspects que je trouve extrêmement intéressants. La flexibilité et la responsabilité que l'on place dans chacun des collaborateurs.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de manager, en fait, c'est ça, hein ?
Alors, non. On n'a pas de manager, ouais. Mais les gens ne sont pas laissés à l'abandon. Donc, il y a deux personnes qui vont encadrer en fait, tous les collaborateurs. Mmh. Déjà, on a des coachs au sein de l'entreprise qui sont là pour accompagner dans la croissance professionnelle nos collaborateurs et les collaboratrices. Et on a des leads d'équipe, bien évidemment, par département, si on peut dire ça, qui vont encadrer. Mais l'idée derrière, en fait, l'absence de manager, c'est que les gens sont responsables et en autonomie sur leurs objectifs et sur la manière dont ils vont conduire leur travail.
Mais ça veut dire que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Tous les profils ne peuvent pas se sentir à l'aise dans une situation comme ça. On a parfois besoin d'être encadré, qu'on nous donne un cap au quotidiennement ou...
Oui. Oui, je ne dirais pas effectivement que c'est une culture d'entreprise qui va convenir à tout le monde parce que effectivement cette grande autonomie, cette organisation assez uniforme, ouais. sans strate, elle est quand même particulière. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel on accompagne les collaborateurs et encore une fois, on ne les laisse pas...
Vous le signifiez quand vous recrutez, par exemple, cette année vous recrutez 150 personnes, à chaque fois vous expliquez bien quel est le modèle de l'entreprise sur ces sujets-là?
Exactement, et ça on essaye d'être très clair. Très transparent, oui. Je refais écho à la transparence que j'écrivais tout à l'heure, dès le processus de recrutement, sur la page employeur d'Alan, vous retrouverez aussi nos valeurs bien évidemment, mais aussi ce qu'on n'est pas et ce qu'on ne propose pas.
Sur les réunions, je voyais aussi qu'il n'y en a pas, en fait. Les décisions se prennent plutôt par écrit, on va communiquer quoi sur des plateformes sociales ou par mail?
Alors, si on a des réunions.
Ah, il y en a quand même.
Oui, on échange bien évidemment. Ce qui ne se passe pas chez nous, c'est que la prise de décision, en fait, elle n'est pas orale, comme dans une réunion traditionnelle telle que l'on connaît tous, mais elle est écrite. L'idée derrière ça, c'est que l'information, elle est accessible à tout le monde et que les gens auront du contexte sur... Moi, par exemple, ça fait 4 ans que je suis arrivée chez Alan. Si à un moment, je veux résoudre un problème et avoir accès à un contexte particulier, j'ai pas besoin d'aller le chercher ou demander à un tel ou un tel, ou pire, faire une mauvaise décision parce que j'ai pas le contexte, je peux avoir accès à comment ça a été formulé.
Donc, il y a quelqu'un qui prend des notes pendant la réunion ?
Alors non. On n'a pas de scribe qui nous assiste dans nos réunions. Non, tout simplement, les réunions, elles sont écrites. Donc c'est un peu similaire à faire un exposé écrit dans lequel on présente la nature du problème que l'on veut résoudre, ses enjeux, et dans lequel on va convoquer des collègues pour participer à cette prise de décision. Et de cette manière, c'est consigné dans un outil qui, alors là, pour le coup, retranscrit nos échanges.
Ouais. Et donc, vous êtes convaincu par cette manière de fonctionner ?
Pour moi, c'est vraiment une de nos grandes forces et une de nos grandes valeurs parce que on a donc une traçabilité de toutes les informations et de toutes les informations clés qui constituent l'histoire d'Alan, accessible donc de manière écrite. Et aujourd'hui, par exemple, quand on voit des développements comme l'intelligence artificielle, le fait d'avoir par exemple de tout écrit, c'est une base de connaissances formidable, immense, dans laquelle ensuite on peut venir incorporer l'intelligence artificielle et qui nous permet d'aller encore plus loin.
Donc on ne s'est pas fermé à l'intelligence artificielle, bien sûr.
Ah non, on y est même très ouvert.
Dans une néobanque qui plus est. Pour terminer, chacun est maître de son emploi du temps. Les salariés peuvent choisir de travailler au bureau.
Exactement.
On va en reparler tout à l'heure dans cette émission. Ouais. À distance ou en coworking. Il y a une grande liberté là-dessus. On sait qu'il y a des directions qui sont encore assez frileuses parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas forcément confiance si on ne voit pas ce que fait le salarié au quotidien. Ouais. Vous, ce n'est pas du tout l'esprit. Mais vous êtes, encore une fois, convaincu. Ça fonctionne, cette méthode où on laisse vraiment le champ libre aux salariés ?
Oui, on recrute des personnes qui sont extrêmement autonomes, qui vont être responsables, qui auront envie d'aller résoudre les problèmes et de manière autonome. Donc pour nous, ça n'a pas de sens de les contraindre dans un espace géographique. Donc on a effectivement cette flexibilité-là avec une dizaine de bureaux en Europe.
Mais donc on peut décider de ne jamais venir au bureau ?
Alors,
quand même pas.
Oui, si. on peut décider de ne jamais venir au bureau, mais pour être parfaitement juste en fait dans la réalité, c'est que pour que notre culture d'entreprise qui est fondée sur l'écrit fonctionne réellement, le contact, la confiance que l'on bâtit en étant avec les personnes, elle est importante. Et donc on va favoriser les rencontres au sein des équipes, on va avoir des temps qui réunit tous les collaborateurs de l'entreprise et créer du lien comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est cette balance de à la fois satisfaire les envies et les besoins de chacun, mais en même temps conserver cet esprit d'entreprise.
Il nous reste un peu moins d'une minute, Juliette Rimbaud, pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes. C'est Patrice qui nous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle, comme le veut l'exercice, je vais vous inviter à piocher un papier. Une phrase à compléter. Je vous laisse nous la lire.
Oui. Dans ma boîte, les augmentations, c'est pas question, négociable, collectif. Alors, notre système de rémunération, il est transparent.
Lui aussi.
Exactement. Et donc les augmentations, elles ont lieu quand on a été promu. Et bien évidemment, les promotions sont également transparentes. C'est à l'issue d'un processus d'évaluation qu'on a deux fois par an chez nous. Et donc à ce moment-là, donc on a une grille salariale. Les personnes, effectivement, peuvent avoir des augmentations, mais il n'y a pas de négociation individuelle. Tout est transparent et donc récompense un effort, un mérite.
Et ça va avec la promotion.
Exactement, oui.
Donc deux fois par an, vous l'avez dit, ça c'est aussi innovant parce que le minimum légal c'est une fois et généralement les entreprises se tiennent à ça.
Alors, tout le monde n'est pas augmenté deux fois par an, mais le processus d'évaluation lui a lieu deux fois par an.
Très bien. Merci beaucoup Juliette Rimbaud, DRH d'Alan. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joint tout de suite Déborah David, avocate associée au cabinet de Gaulle-Fleurance, pour répondre à cette question. Déborah, les partenaires sociaux doivent-ils être mis dans la confidence de tous les signalements remontés par les salariés pour s'assurer du bon suivi des situations ?
Logiquement, c'est pas forcément les partenaires sociaux qui vont être les plus adaptés dans ce type de situation. On va plutôt remonter les signalements auprès des représentants du personnel. Mais pour autant, c'est pas une obligation légale. C'est-à-dire que ça va dépendre des pratiques au sein de l'entreprise. Dans toutes les entreprises, il faut absolument avoir une charte ou un accord qui prévoit le traitement des signalements, que ce soit harcèlement moral, harcèlement sexuel ou même tout acte de violence au travail. Et dans le cadre de cette politique, soit on va impliquer les représentants du personnel en mettant en place par exemple des commissions d'enquête paritaires, donc moitié représentant du personnel, moitié représentant de la direction en général DRH pour mener une enquête, ou alors la direction va mener l'enquête seule ou alors va confier à un prestataire externe. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'obligation d'information ou de remontée des signalements auprès ni des partenaires sociaux ni des représentants du personnel.
Merci Déborah David, avocate associée du cabinet De Gaulle-Fleurance. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Être manager à 25 ans, bah ça doit pas être facile. Comment bien manager et être managé, c'est ce qui nous intéresse pendant les 10 prochaines minutes de cette émission avec nos invités que j'accueille, Julien Dreher. Bonjour Julien.
Bonjour Erwan.
Entrepreneur et auteur de Tous Managers, ça tombe bien. Et face à vous, Solaï Azbek, bienvenue. Vous êtes senior audit financier chez Mazars. Alors vous êtes manager, Sola. Combien de personnes vous encadrez ?
Alors, on est dans des structures d'équipe un petit peu particulières, loin des organisations classiques. Ouais. Vous allez fonctionner en mode projet. Donc aujourd'hui, j'ai 5 à 6 missions, chacune composée de 2, 3, 4, 4 équipes plutôt juniors. Mmh. Voilà.
Des personnes qui... Vous avez quel âge ?
Alors moi j'ai 26 ans.
26 ans.
Globalement, vous démarrez l'audit en sortie d'école. Mmh. Et puis 2-3 ans plus tard, vous allez être amené à encadrer des équipes et ouais. manager.
Juste d'un mot, Julien, là-dessus. Mais donc là, on est chez Mazars, dans un cabinet de conseil. C'est vrai que c'est typiquement les univers dans lesquels on évolue très vite. Hein. On peut vite diriger des personnes. Bah, quand on sort d'un stage, d'un apprentissage, il suffit quoi de 2, 3, 4 ans ?
Tout à fait.
Pour encadrer des personnes. C'est assez atypique.
Oui, c'est assez atypique. Effectivement, une constante de l'univers du service et du conseil dans lequel les carrières évoluent très vite. Et effectivement, donc c'est souvent des bons environnements pour pouvoir manager très jeune ou en tout cas prendre des responsabilités, qu'elles soient opérationnelles ou plus managériales très jeune.
Mais alors, il y a la question de la préparation. Comment est-ce que vous prenez ces fonctions-là ? Est-ce qu'on vous forme ? Est-ce que vous êtes accompagné ?
Tout à fait. Déjà, je ne suis pas un cas isolé. On fonctionne beaucoup par promotion. Vous allez avoir un séminaire de formation qui va initier vos années d'accompagnement, de management. Vous allez autant avoir un enseignement technique, d'expertise. On est dans un métier normé. Il y a des parties prenantes qui sont preneuses des informations qu'on va certifier. Et vous avez aussi les soft skills. On va vous apprendre à vous connaître, déjà. Et puis, apprendre à analyser les intervenants en face de vous.
Et ça, c'est avant d'être manager.
Oui,
d'accord.
Oui,
c'est pas une fois que vous êtes nommé qu'on va vous former.
C'est un petit peu la suite logique.
Ça continue au fil de l'eau.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de votre parcours dans l'entreprise.
Ouais, il faut vraiment prendre en considération, Julien, quand on fait partie de la direction ou des ressources humaines, bien sûr, cette question-là de la formation. On ne balance pas un manager dans la gueule du loup, parce que parfois, enfin, on a beaucoup entendu d'histoires comme ça, d'échecs, et puis des personnes aussi qui managent alors qu'elles ne voulaient pas le faire.
Oui, enfin, c'est un changement assez global dans l'entreprise sur son modèle de management qui va effectivement en rendant cette mission beaucoup plus accessible, centrée sur l'opérationnel souvent et qui permet d'exprimer le leadership, mais c'est aussi en ayant toutes ces fonctions support qui permettent aussi de traiter, on va dire, la science du management, les problèmes vraiment durs comme les conflits, comme tout un tas de sujets qui sont pas forcément très simples à gérer quand on a 25 ans et qui vont être un support plus. Et c'est ça un peu le sujet pour les entreprises, cette entreprise plateforme qui va supporter, aider les managers de 25 ans pour qu'ils puissent vraiment exprimer tout leur leadership.
Est-ce que pour être un bon manager, et c'est pas comme un comédien, il faut avoir vécu des choses, il faut avoir fait l'expérience dans sa vie personnelle pour pouvoir ensuite jouer des émotions, de la même manière que quand on encadre des personnes, il faut savoir aussi gérer les émotions, les personnalités des autres, non ? Donc avoir du vécu.
Alors moi je dirais plus que déjà on peut avoir du vécu à 25 ans, c'est plus de la crédibilité que du vécu. Oui. Et je pense qu'à 25 ans on peut être crédible sur tout un tas de sujets, même beaucoup plus crédible que des personnes plus âgées. Voilà. Et moi-même, hein, je pense qu'il y a plein de sujets que je traite très beaucoup, enfin beaucoup moins bien que ouais. quelqu'un qui a 25 ans, tout simplement parce qu'il a le vécu de quelqu'un de 25 ans. Et c'est ça qui est pertinent. En
fait. La question de la crédibilité, vous voulez être posée ?
Alors, d'autant plus en encadrant ouais. des... On est dans un environnement très jeune, finalement. Mmh. Vous allez encadrer des personnes qui ont 1 à 2 ans de moins que vous. Il s'agit de faire preuve d'une posture managériale mmh. tout en étant... pas forcément que le copain qui a juste un an ouais. Ou deux ans de plus, finalement veiller à être en accord avec les mesures d'excellence. Voilà, on a un devoir d'excellence envers nos clients, envers nous-mêmes, envers le cabinet, ouais. et accompagner quand même dans la bienveillance sans tomber dans la complaisance.
Après, j'imagine que vous n'êtes pas seul aussi. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un soutien, bon, vous avez forcément quelqu'un au-dessus de vous qui va vous aider.
Tout à fait. Selon ouais. les structures d'équipe, en général, vous avez quand même des managers un peu plus aînés, un peu plus seniors, et puis vous ouais. avez les RH qui sont quand même le fil conducteur dans notre organisation mmh. un peu management de projet. Et ouais. qui nous aide dans notre quotidien.
On parle beaucoup du problème de l'imposteur dans les entreprises, notamment quand on est une femme aussi. Est-ce que ce problème-là, vous l'avez vécu ou vous connaissez d'autres personnes qui l'ont vécu ? Julien aussi, peut-être vous avez des expériences comme ça, des histoires à nous raconter. On est dans une position de manager quand on est jeune, 25-26 ans. Est-ce que vraiment on est légitime ? C'est des questions que vous êtes posées ?
Alors, pas forcément en tant que femme, mais plus en tant que jeune collaborateur, comme vous le disiez. Évidemment, on se remet en question, mais finalement, la vie est baignée d'échanges avec des pairs. Vous avez également chez nous le feedback 360. Mmh. Donc, c'est aussi l'opportunité d'avoir des feedbacks sur votre style de management.
Ah oui.
Je pense que le style
anonyme
de management,
ou pas
anonyme.
Anonyme.
Tout à fait.
Ouais, donc,
tout
on
à
peut
fait.
Dire vraiment très clairement ce qu'on pense.
Après, on pousse quand même à échanger avec la personne avant de mettre ça par écrit, bien sûr. Voilà, que ce soit un échange sur ce qui va pas dans les deux sens. Ouais. Je pense qu'on est deux à se manager finalement dans une relation de management.
Alors, vous qui nous écoutez, est-ce que ça vous poserait problème ? Est-ce que ça vous pose problème d'être encadré par un jeune de 25 ans qui est peut-être plus jeune que vous ? Astrid Olivier est allée à votre rencontre pour vous poser la question.
Oui, au début, c'est difficile parce que les personnes un peu plus âgées qui ont un peu plus d'expérience ne comprennent pas forcément pourquoi un jeune les dirige. Le nombre d'années d'expérience ne joue pas forcément. C'est aussi les compétences, le niveau et puis c'est aussi savoir s'adapter.
Il faut de la légitimité. Et pour avoir de la légitimité, je dirais qu'il faut déjà de la connaissance sur le métier. Et puis après, c'est l'état d'esprit, le charisme.
Je pense juste que c'est un tempérament aussi. Enfin, faut savoir mettre son ego de côté. Et en fait, genre, si on estime que la personne est plus compétente, l'âge, ça veut rien dire pour moi. Enfin, c'est plutôt dans les actes et dans la manière de faire qui sont le plus important.
Julien Dreher, moi, je retiens trois mots: légitimité, compétence, tempérament. Hein. C'est ça en fait qui compte. C'est pas forcément nécessairement l'âge.
Oui, et puis même à l'inverse.
Dans les témoignages qu'on a recueillis.
À l'inverse, effectivement, le contre-exemple, c'est qu'on peut être quelqu'un d'expérimenté et ne pas avoir ces trois vertus et pour le coup être pas très bon manager ou être mal perçu par ses managers. Mmh. Donc, effectivement, c'est ça en fait l'essentiel.
Vous, Sola Yazbek, ça vous rassure un peu là ce qu'on vient d'entendre ou pas ?
Bien sûr. Je pense qu'on a beaucoup tendance à opposer les jeunes générations de leurs aînés. Moi, je pense que c'est une question de tout âge et à n'importe quel âge, on peut se demander qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être un bon manager ? Qu'est-ce qu'un bon manager pour moi ? Et puis, surtout que cette vision évolue avec le temps et l'expérience.
Bien sûr. Ouais. Et les mentalités aussi ont changé. C'est-à-dire qu'être managé par quelqu'un qui a 25 ans, il y a 10-15 ans, c'était peut-être plus difficile qu'aujourd'hui, non ?
Mais complètement, on est dans un changement de culture progressif autour de ça, tout simplement parce que le marché l'exige, qu'on a besoin de beaucoup plus de diversité, on a besoin dans les offres et donc derrière dans la prise de décision interne, donc forcément dans le management. Et donc on est sur un changement continu, mais assez sérieux de ce type de culture de travail. On a parlé de transparence, on a parlé d'autonomie, mais aussi évidemment derrière de qui manage ou qui prend les décisions.
Après, vous, cela, vous ne managez pas des personnes qui sont plus âgées que vous ?
Non, pas spécialement.
Pour l'instant ?
Pour l'instant.
Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Est-ce que c'est un problème, en tout cas une question supplémentaire qu'on est amené à se poser est-ce qu'on va avoir la même attitude avec une personne qui a plus d'expérience, qui est plus d'ancienneté dans l'entreprise ?
Je pense qu'effectivement, votre légitimité est d'autant plus challengée. Mmh. Évidemment, vous devrez plus peut-être travailler sur votre expertise. Donc oui, évidemment, ce serait un autre challenge.
On avait un petit peu plus tôt dans cette émission la DRH d'Alan, entreprise d'assurance dans laquelle il n'y a plus de manager. Le livre que vous avez écrit, Julien Dreyer, c'est Tous Managers, mais le sous-titre, c'est Renoncer à la subordination pour libérer la coopération de l'entreprise. C'est-à-dire que dans un idéal, faudrait qu'il n'y ait plus de manager, en fait, non?
Bah après, est-ce qu'il n'y a plus de manager? Ça dépend ce qu'on entend par manager. Moi, j'entends le manager au sens de la capacité de favoriser le travail collectif. Et pour moi, ça, c'est la responsabilité de tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'entends le Tous Manager avec l'enjeu de déconcentrer et de découper les charges managériales pour la mettre au bon niveau, par exemple au niveau de cela sur la dimension management opérationnel, mais sans forcément en plus gérer, j'en sais rien, les congés, les augmentations, les promotions, les conflits qui sont pour le coup plus compliqués à gérer à 25 ans, surtout quand c'est des publics et des managers plus vieux.
Et déléguer aussi, on est manager, c'est pas pour ça qu'il faut tout porter sur ses épaules, il faut savoir déléguer à ses équipes, ça c'est important, on l'apprend quand on commence à être manager jeune.
Oui, tout à fait, votre emploi du temps va foncièrement changer, ouais. Vous allez passer d'une production à l'anticipation. Déjà, c'est le mot-clé. Vous allez anticiper vos besoins de ressources, votre temps qui va être de la supervision, l'accompagnement plutôt que de la production. Apprendre à déléguer, lâcher prise aussi. Et puis apprendre que faire autrement, ça ne veut pas dire faire moins bien.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Solaï Yazbek, senior audit financier chez Mazar, et Julien Dreyer, entrepreneur et auteur de Tous Managers, qui était avec nous dans ce meeting. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est la carte blanche. Alors, on a pas mal parlé de la semaine de 4 jours dans cette émission. Je vous invite d'ailleurs à réécouter en replay l'interview du patron de LDLC sur ce sujet. Il était avec nous il y a quelques semaines. Et bien aujourd'hui, notre chroniqueur Stéphane Moriou prend le parti de lui remettre en question cette semaine de 4 jours.
Qu'elle parle d'organisation ou de réduction du temps de travail, la semaine en ou de 4 jours est certainement l'un des thèmes les plus en vogue de l'année. Pas un mois sans une nouvelle étude ou un retour d'expérimentation. Même la fonction publique s'y met. Souvent présentée comme une solution péremptoire, on lui oppose peu d'avis contradictoires. Je voudrais contribuer ici au débat avec 3 questions. On nous dit que la réduction du temps de travail, c'est la marche du temps. Mais ne craignons-nous pas qu'à force de vouloir le réduire, nos emplois disparaissent définitivement, remplacés par une IA? On nous parle aussi d'équilibre vie pro, vie perso. Mais est-ce que les plus à risque, celles et ceux qui bossent 70 ou 80 heures par semaine, seraient concernés? On nous explique enfin que c'est une manière d'augmenter la productivité. Mais comment réagirions-nous si certaines fonctions, président de la République, chercheur en cancérologie ou négociateur de la paix, réclamaient leurs 3 jours hebdomadaires de repos? Il me semble qu'il y a danger à chaque fois que l'on réclame pour soi des droits que nous ne sommes pas prêts à reconnaître pour d'autres.
Happy Boulot, le Lab.
Et on termine avec le coup de cœur d'Happy Boulot dans notre labo RH avec Jeanne qu'on retrouve. Jeanne, votre objectif en 3 minutes, c'est de donner envie à ceux qui sont partis en télétravail de revenir au bureau.
Gros challenge.
Oui. Et oui. On vous écoute.
Erwan, oui. Il faut savoir que 3 cadres sur 4 aujourd'hui fait du télétravail. Ouais. En moyenne, les salariés sont présents 3,5 jours par semaine. Et c'est une tendance qui est née du Covid et sur laquelle les employeurs veulent revenir. Pour preuve, 71% des entreprises françaises imposent des jours de présence obligatoires au bureau depuis automne 2023. Ils veulent en finir.
En tout cas, c'est pour éviter les excès, non?
C'est pour éviter les excès, mais pas seulement. En fait, à cause du télétravail, il est plus difficile de manager. À distance, les délais de réponse sont plus longs. Il est impossible de vérifier ce que le salarié fait. Et enfin, le télétravail pose une question de sécurité vis-à-vis des informations internes de l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi peser sur l'employé. Il peut être pénalisé par le télétravail.
Comment ça?
Il peut manquer des promotions, des opportunités. Parce que être loin des bureaux, c'est être loin des décisions qui sont prises.
Et enfin, on nous oublie, en fait, quand on n'est plus au bureau. Exactement. Des fois, quand on fait beaucoup de télétravail, on sait. Ah, tiens, oui, c'est vrai qu'il existe. Mais...
Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Et enfin, le télétravail. Il peut aussi rendre la frontière entre le pro et le perso plus flou. Ouais. L'employé peut se mettre à travailler beaucoup plus sans s'en rendre compte. Mm-hmm. On a vu que les salariés à distance font 7 à 8 heures supplémentaires par semaine non payées.
Bon, alors ça c'est le constat que vous posez, Jeanne, mais comment on fait maintenant pour faire revenir les salariés dans les locaux?
Alors, la première chose que les entreprises en France ont fait, c'est de s'attaquer à l'environnement des bureaux. Oui. Il faut que l'employé se sente aussi bien, voire mieux, en entreprise que chez lui.
Comme dans son salon, quoi.
Exactement. Ouais. Selon une étude, 72% des répondants disent que pour leur donner envie de revenir au bureau, l'entreprise doit proposer des espaces de travail mieux qu'à la maison. Mm-hmm. Et ça, Sanofi l'a bien compris.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors, ils ont employé un ancien directeur de palace, pour qui a importé les codes du room service chez le géant de la pharmacie.
C'est-à-dire, je sonne et il y a le serveur qui vient.
Alors presque. Donc déjà, le mobilier groom a été entièrement refait, un peu à la manière d'un hôtel de luxe. Mm-hmm. Mais aussi, les salariés, on leur demande souvent s'ils ont besoin de quelque chose à boire, quelque chose à manger. Ils sont toujours accueillis avec courtoisie et les salles de réunion sont toujours propres.
Ah, ça c'est bien.
C'est pas tout. Oui. Côté cantine, attention, ouais, côté cantine, c'est pâtisserie haut de gamme, pizza et vue sur la Tour Eiffel. Donc c'est pas mal quand même.
Ah oui, y a là, pas que... c'est des bonnes idées. Là, ils y sont allés à fond là.
C'est du haut niveau. Ouais. Donc chez Catch Me, c'est une entreprise de recrutement, ils ont créé une salle de jeu. Chez Zenchef, l'entreprise a divisé par deux son espace réservé au travail pour le transformer en espace de vie. Donc voilà, c'est tout ça qui a été mis en place.
Donc les espaces.
Exactement. Ouais. Et plus traditionnellement, ça vous pouvez peut-être tous l'avoir dans votre entreprise, il y a tout ce qui est cabine insonorisée, casque à réduction de bruit, etc., etc. Mais c'est déjà pas mal.
Bon, il y en a beaucoup qui s'en sont saisis, c'est vrai. Alors est-ce que ça fait revenir les salariés? Pas toujours forcément. Bon, c'est vrai qu'on travaille plus confortablement, mais il faut peut-être aller plus loin. Bon, à part les bureaux, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire d'autre?
Alors, il y a des entreprises qui sont allées encore plus loin. Hein. Ils proposent des services gratuits.
Oui.
Chez Célio...
Ça me plaît.
Chez Célio, par exemple, on propose un chef, un petit déjeuner, un goûter gratuit et des déjeuners de qualité pour 5 euros.
Mais ils nous attirent vraiment par la bouffe, hein, tous, là.
Exactement. Ouais. Moi, ça me parle. Hein.
Ouais. L'estomac, vous aussi.
L'estomac, c'est le deuxième cerveau. Faut pas l'oublier, Erwan.
Je vois ça.
Chez Leader Group, on propose pressing, coiffeur, garde d'enfants ou lavage de voiture avec une réduction de 10%.
Ah oui, donc beaucoup de services.
Beaucoup de services, mais il n'y a pas que ça. J'en avais parlé dans ma première chronique, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les chiens.
Les chiens, ouais, je m'en souviens.
Voilà, je redis, emmener son chien au travail, c'est aussi un argument pour faire revenir ses employés. Ça, c'est une technique employée par Nestlé en France. Bon, on parle beaucoup de la France, mais il y a les États-Unis.
Je suis sûr qu'ils font mieux que nous.
Ils font toujours mieux que nous.
Bon, qu'est-ce qu'ils font?
Non, je rigole. Il y a des extrêmes plus extrêmes. Hein. Eux, ils avaient déjà tous ces avantages, en fait, avant le Covid, chez Google, etc. On avait déjà tout ça. Donc, ils sont plus difficiles encore à convaincre de revenir au bureau. Donc, il y a le groupe Costard, c'est un groupe immobilier, qui tirait au sort, fut un temps, un employé chaque jour pour emporter 10 000 dollars.
Chaque jour?
Chaque jour, ils tiraient au sort un employé.
D'accord.
Pour remporter 10 000 dollars.
Ouais. Mais donc, il fallait être au bureau, c'est ça, hein?
Exactement, il fallait être au bureau pour être tiré au sort. Des vacances de luxe à la Barbade ou une Tesla?
Ouais, bon, après, ça, c'est quand même l'exception, je pense.
L'exception, hein, mais bon, parce que la BFM Business, j'attends toujours ma Tesla. Hein. Je suis là tous les jours au bureau, moi.
Bon, je pense que c'est pas qu'à BFM, c'est partout. Merci, en tout cas, bon, on espère que ça aura donné quelques bonnes idées aux directions, aux RH qui nous écoutent. Bah, ceux qui veulent en tout cas faire revenir leurs salariés au bureau. Merci, Jeanne, on se retrouve la semaine prochaine, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve le week-end prochain. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.